Chapitre 12, le Mississippi. Notre décision était désormais prise. La bande de la montre partirait pour la Nouvelle-Orléans en bateau, puis suivrait les chemins de l'aventure, pour reprendre l'expression de Petit Trois. Nous avons atteint le port de la Nouvelle-Orléans en milieu d'après-midi. Le Mississippi, dont la surface sombre était constellée d'éclats lumineux, coulait, lent et majestueux. Le long du rivage, les bateaux amarrés ressemblaient à des chefs indiens dont la tête était ornée de hauts panaches de fumée. Je ne savais pas qu'il existait des navires aussi grands. Ces embarcations étaient des immeubles flottants de 3 étages, remplis de hublots et de fanions colorés. Au-dessus, entre les cheminées jumelles, on voyait pointer la guérite de la cabine de pilotage, tandis qu'à la poupe surgissait la grande roue à aube qui pousserait le bateau sur le fleuve avec toute la force de la vapeur. Il n'y avait guère de monde au port à 7 heures. Seulement quelques marins, qui déchargeaient de gros sacs d'une péniche et de petits groupes de passagers massés le long du bastingage d'un bateau en partance. Ce bateau s'appelait le Louisiana Story. Devant la passerelle, un fonctionnaire vendait les billets. En nous voyant arriver, il a plissé les yeux et craché une grosse boule de salive sur le ponton. « Qu'est-ce que vous voulez, vous ? » a-t-il demandé. Je me suis avancé car j'étais le plus grand. « 3 billets pour moi et mes amis, et un demi-tarif pour mine, enfin, pour notre serviteur. » Pourvu que le commerçant à qui j'avais arraché cette information m'ait dit la vérité. « Et où est-ce que vous souhaiteriez aller ?» J'ai dit « À Saint-Louis. » « Ça fait une trotte. » « C'est vrai. Jusqu'à Saint-Louis, le tarif, c'est 10 $ par tête en cabine, 5 sur le pont. Le noir fait la moitié. Si vous souhaitez manger à bord, c'est 25 cents par repas, chacun. Mais ça fait beaucoup d'argent. » Nous n'avions pas songé à faire le plein de provisions, mais au fond, on avait encore quelques économies. J'ai répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour nous, puis j'ai montré 2 billets de 10 $. Le nez du bonhomme a failli tomber de son visage, mais il s'est aussitôt insurgé. « Et où est votre accompagnateur ?»«
Quel accompagnateur ?»
Le fonctionnaire a ricané, content de m'avoir finalement coincé. « Dès l'instant où vous montez sur cette passerelle, la compagnie fluviale est responsable des passagers, surtout s'il s'agit d'enfants comme vous. Il n'empêche, j'ai besoin d'un adulte vous accompagne ici. » Et qu'un autre vienne vous récupérer à Saint-Louis, vous ne croyez pas ? Impossible de vous prendre à bord si un adulte ne se porte pas garant pour vous.
Je ne savais pas. J'ai regardé Julie. Elle semblait aussi inquiète que moi.
Mais Petit Trois est venu à mon secours. Mince, mon cousin Eddie n'en savait rien, et on dirait que notre oncle, enfin son père, n'en savait rien non plus. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le maire.
Le maire ? A demandé le fonctionnaire.
Oui, les sénateurs aussi, a nonchalamment lancé Petit Trois avec son fameux air de pitre.
Il ne savait pas qu'il devait nous accompagner ici.
Parce qu'il est très occupé, a ajouté Julie, histoire de s'en rendre utile.
Il nous a déposés dans ce fiacre là-bas, vous le voyez, la voiture élégante qui s'éloigne. Il nous a laissés au port avec notre serviteur pour qu'on n'ait plus qu'à partir, en l'occurrence pour Saint-Louis, où l'un de ses employés viendra nous chercher.
Le fonctionnaire nous a regardés. Il avait cette mine courroucée qu'ont parfois les adultes quand ils se demandent si on les prend pour des imbéciles.
Et cet oncle, maire et sénateur, vous laisse dormir sur le pont? Vous savez comment les marins les appellent, ceux qui voyagent dehors?
Les paquets vivants. Parce qu'ils doivent trouver de la place au milieu des caisses de marchandises et des balles de coton.
Effectivement, une cabine serait préférable pour notre cousine, a convenu Petit Trois. Mais peut-être que notre oncle n'était pas au courant.
Pas au courant?
Le fonctionnaire a soupiré. Puis il a secoué la tête et s'est mis à griffonner quelque chose sur le talon des billets.
Il a ramassé notre argent comme s'il eût brûlé la main, nous a remis les précieux rectangles cartonnés et nous a conseillé de monter sans tarder sur la passerelle du navire. On sentait clairement qu'il serait soulagé de ne plus jamais nous revoir, et à vrai dire, je souhaitais sincèrement lui faire ce plaisir. Le bateau est parti au coucher du soleil. Un véritable spectacle. La cloche en cuivre s'est mise à sonner à toute volée avec des sonorités de cathédrale, et des marins en uniforme foncé ont retiré la passerelle avant de larguer les amarres. Le navire tout entier a ensuite vibré sous nos pieds. C'était comme un gigantesque animal endormi qui aurait enfin décidé de se réveiller. Les 2 cheminées ont exhalé des nuages de fumée noire. La roue s'est mise à tourner, d'abord doucement, très doucement, quand le bateau s'est détaché du quai, et puis plus vite, et puis encore plus vite en soulevant de grandes gerbes d'eau. Aucun animal n'aurait jamais nagé en faisant autant de bruit et de vagues. Ce bateau était un véritable sortilège de l'homme blanc. Mais je me suis senti plus léger en voyant la Nouvelle-Orléans disparaître derrière nous. Les hérons flottaient à nouveau au-dessus du fleuve, les créatures du bayou évoluaient au milieu des arbustes et sur les berges.
Pfiou, a dit Petit Trois tout près de moi. Regarde-moi filer ce bateau, Ed. Tu penses qu'on peut aller voir la cabine du pilote tout là-haut? Je veux y aller, s'est aussitôt écriée Julie. Je parie que si je lui pose la question, le pilote me laissera voir le gouvernail. Ha ha, elle est bien bonne celle-là. Une voix venait de ricaner derrière nous. En nous retournant tous ensemble, nous sommes tombés sur trois gamins pieds nus qui nous regardaient d'un air moqueur. Ils avaient plus ou moins notre âge et portaient chacun un pantalon en toile ainsi qu'un gilet bleu marine. Pour le reste, ils ne pouvaient pas être plus différents. L'un était aussi costaud et grassouillé qu'un buffle, l'autre maigrichon et avec deux yeux brillants comme des flambeaux, et le troisième encore plus noir que mine. Il lui manquait toutes ses dents. Chaque fois qu'il souriait, il dévoilait deux gencives rose bonbon. « Pourquoi elle est bien bonne ?» a demandé Julie en plantant les poings sur les hanches, la mine menaçante. « Parce que les femmes n'ont pas le droit de se mettre au gouvernail. Et toi, t'es une femme, ou plutôt une fille, » a dit l'édenté. « Et toi, comment tu le sais que les femmes ne peuvent pas piloter ?» Le gamin a reniflé en se donnant un air important. « Je le sais parce que nous, on a le droit. On est marins. »
« C'est des salades, ça, » a répliqué Petit Trois.
« Pas du tout. Moi, c'est René, lui, c'est Tom, et voilà Mike, » a-t-il lancé en pointant un doigt d'abord vers lui, puis vers le gros et le maigre. « On est mousse sur le Louisiana Story. »
« Les mousses, ce ne sont pas des vrais marins, » a fait remarquer Julie. « Pas vrai, Eddie ?»
Pourquoi était-ce à moi qu'elle posait cette question, enfin ?«
Je ne sais pas. »
« Et vous, vous êtes qui ?» a repris René. « Petit Trois, Eddie, Julie et Mine. »«
Petit Trois, Mine ?» Jamais entendu des noms aussi bizarres. « Et puis vous êtes fringués comme des Milords, sauf que les Milords, ils dorment rarement au milieu de la cargaison. »«
Qu'est-ce que vous allez faire à Saint-Louis ?»
On a une mission, a lâché Petit Trois d'un ton légèrement outré. Je lui ai donné un coup de coude dans les côtes. Ce n'était pas une bonne idée de parler de la montre et du reste. Ce que veut dire mon ami, c'est que nous avons un voyage important à faire jusque là-bas, ai-je bafouillé. Voyez-vous, nous sommes les enfants du gouverneur.
Ça, c'est un joli bobard, a dit René.
C'est pas vrai. Oh que si, je t'assure. De toute façon, si vous êtes vraiment des gens si importants, c'est tant pis pour vous.
Petit Trois s'est alors avancé.
« Comment ça, c'est tant pis pour nous ?»«
Parce qu'on voulait vous montrer les moteurs du navire, mais j'imagine que vous n'avez pas envie de salir vos beaux vêtements. »
En réalité, on s'en fichait pas mal de ces vêtements. Je crois même que Petit Trois aurait été prêt à se promener tout nu pour voir les moteurs.
Les trois jeunes mousses nous ont accompagnés jusqu'à la soute à bagages pour que nous y déposions notre valise, puis ils nous ont fait faire le tour du bateau en suivant la ligne étincelante du bastingage en cuivre. Au passage, ils nous ont expliqué tout ce qu'ils connaissaient. Le bateau a trois ponts. Le pont principal en bas où se trouve la cargaison et les gens comme vous, puis le pont des chaudières, celui où on se trouve en ce moment. C'est là que sont les cabines et les chaudières, bien entendu. Enfin, il y a le pont des ouragans au-dessus.
« Pourquoi le pont des ouragans ?» a demandé Petit Trois.
« Ça, j'en sais diantre fichtre rien, » répondu René. « Peut-être parce que c'est tout là-haut que j'aimerais me réfugier en cas de tempête, à vous saucissonner les boyaux. On risque moins de finir à la baille, vous comprenez ?» Quoi qu'il en soit, par là-bas, il y a le couloir central, avec la salle à manger et le bar, où les adultes se retrouvent le soir pour jouer aux cartes. Là-bas, derrière, il y a des officiers. Ils se planquent pour que personne ne puisse les voir quand ils boivent un coup pendant leur quart. Et dans cette cabine-là, il y a deux autres personnes de notre âge.
Qui ça ?
Deux jumeaux, je crois, parce qu'ils se ressemblent comme les fesses d'un babouin. Sauf que le premier, c'est un garçon et l'autre, c'est une fille. Ils voyagent avec leur oncle. En revanche, dans cette cabine, juste ici, il y a une gamine qui n'a pas plus de 10 ans. Elle est avec une veuve revêche comme pas deux. Elle a une haleine qui sent la merde de poisson-chat. Depuis que nous avions fait leur connaissance, Tom et Mike s'étaient toujours contentés d'acquiescer ou de faire quelques brèves remarques du type « oui, non, peut-être ». René, lui, parlait à toute vitesse dans un français bâtard en postillonnant souvent de sa bouche édentée. Et surtout, il glissait à tout bout de champ dans la conversation une ribambelle d'expressions absurdes et colorées qui me faisait ricaner et qui remplissait le regard de Petit Trois d'une admiration infinie. Seule Julie restait un peu à l'écart. Elle tenait Mine par la main et regardait toujours autour d'elle comme si elle avait peur de quelque chose. Parfois, les filles sont difficiles à comprendre. Pour ma part, je dois dire que je me sentais plus tranquille, maintenant qu'on avait rencontré des gens et qu'on était sûr de ne pas être les seuls enfants à bord. On attirait certainement moins l'attention, et puis c'était une bonne occasion de s'amuser un peu, car ces trois mousses m'avaient l'air franchement sympathiques. Une fois de retour sur le pont principal, ils nous ont montré les dépôts de bois et de charbon côté proue, La fournaise où les marins couverts de sueur alimentaient sans cesse les flammes, sous l'œil attentif d'un officier, et puis les grandes citernes en métal attenant aux chaudières qui transformaient l'eau en vapeur. Et où est la salle des machines? Côté poupe, évidemment, là où se trouve la roue. On y est. Nous nous étions engagés dans un corridor qui suivait la paroi du bateau, et René a indiqué une porte en bois qui s'ouvrait tout au fond. « Posez la main dessus !» nous a-t-il invité avec un sourire. « Vous sentez ça? Ces vibrations? Et ce boucan ?» Julie a bâillé, comme si ces histoires de mécanicien ne l'intéressaient pas. Titrois, lui, semblait bouillir d'impatience. Ni une ni deux, il a attrapé la poignée, mais le gros homme l'a bloqué en lui posant une main sur l'épaule. « Doucement, a-t-il dit, c'est interdit ici. » Nous avons acquiescé d'un même mouvement, comme pour l'assurer qu'on avait très bien compris. René a ouvert la porte et nous nous sommes retrouvés d'un coup dans une pièce où résonnait un vacarme de tous les diables. Il y avait des tuyaux partout et de gros pistons en métal qui montaient et qui redescendaient. Au fond, à la place du mur, on voyait la grande roue à aubes qui tournait encore et encore en faisant jaillir des gerbes d'eau dans tous les sens. Cette pièce était un dédale de manivelles et d'étranges cadrans remplis de chiffres et d'inscriptions qu'un homme à l'air hautain contrôlait avec attention. D'un geste, les mousses nous ont demandé de les suivre sans un bruit. Nous sommes passés de l'autre côté pour éviter de nous faire repérer et pour admirer les moteurs en toute quiétude. Au même moment, Mine a poussé un cri. En me retournant, j'ai vu que nous n'étions pas les seuls à nous cacher dans la salle des machines. Au milieu des mécanismes et des engrenages se terrait un gamin aux cheveux noirs, avec des vêtements en lambeaux et une drôle de cicatrice en forme de V sur la joue. « Waouh » ai-je lancé sans en croire mes yeux. Tom, Mike et René se sont retournés d'un coup. « Fichtre diantre, un passager clandestin! Vous avez vu les gars, on en a chopé un !»«
Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Julie.
« Ça veut dire que ce vaurien de rien, vous voulez naviguer à l'œil, mais maintenant il aura droit à un beau plongeon dans le fleuve. C'est la tradition dans la marine. »
Le gamin à la cicatrice a reculé d'un pas, en rampant comme une araignée, si bien que son dos a heurté un poteau en métal.
« Parole d'honneur, je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi terrorisé. »«
Non, non, a-t-il soufflé d'une toute petite voix. S'il vous plaît, ne dites rien. » « Je peux vous offrir quelque chose. »«
Ah oui ?» a demandé René. « Et quoi donc ?»
Le gamin a sorti un sac de voyage plutôt usé. « Cela, ils n'ont pas le droit de voir, » a-t-il dit en nous pointant du doigt. René a hoché la tête d'un air arrogant et s'est rapproché de lui, aussitôt suivi par Tom et Mike qui nous ont gâché la vue. J'ai quand même entreaperçu le passager clandestin sortir de son sac 3 ou 4 feuilles toutes chiffonnées. René les a longuement étudiées. Puis il a craché par terre en poussant un petit rire. «
Vous savez ce que je pense, les gars ?» À mon avis, ce type-là a le droit de rester, aussi longtemps qu'il voudra.